Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif « Les interviews d'Eric Cooper », j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés. Et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'acteur du podcast aujourd'hui s'appelle Philippe Rémy Wilquin. Il vient nous parler de son roman « Les Sœurs Noires », un roman qui se déroule à Tournai. Tournai, le savez-vous, c'est une des plus vieilles villes de Belgique, une des plus vieilles villes gallo-romaines de Belgique. Il y en a deux autres, Arlon et Tongres, et puis Tournai est surnommée la ville aux cinq clochers. Avant peut-être de parler de votre roman, Philippe Rémy Wilquin, peut-être, vous pourriez vous présenter.
Mais Philippe Rémy Wilquin, que puis-je dire sur moi? C'est que de formation, j'étais romaniste, mais j'ai très tôt fait le choix de ne pas attendre la pension pour me consacrer à l'écriture. Je rêvais depuis mes 6-7 ans d'écrire. D'ailleurs, j'écrivais des bandes dessinées entre 6 et 12 ans, des romans entre 12 et 15. Et donc, j'ai décidé de très tôt, après mes études, de mettre au premier plan l'activité littéraire. Et donc finalement, j'ai tout construit autour de la plume, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une activité normative en soirée dont je ne vous parlerai pas, et deux autres vies très pleines en journée de 7h à 15h, où je me consacre à la création littéraire et alors à la médiation, comme vous le faites à cet instant. Donc le travail du journalisme culturel littéraire que j'aime beaucoup, beaucoup également.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire votre tout premier livre ?
Alors c'est très difficile de répondre à votre question puisque mon tout premier livre, je l'ai écrit quand j'avais 6 ans et demi, je crois. C'était une bande dessinée. Il y a quelque temps, la revue littéraire Que Faire a demandé à toute une série d'écrivains pourquoi ils écrivaient. Et dans mon cas, c'était très compliqué d'y répondre puisque je ne me suis jamais posé la question. C'est quelque chose qui est né à 6 ans et demi. Alors j'ai une explication peut-être qui serait presque psychanalytique. C'est le fait que, étant enfant, mon père et mon parrain m'ont offert des embryons de collection des magazines Tintin et Spirou. Et c'était des collections émiettées. Donc j'ai commencé à lire des histoires dont je n'avais ni le début ni la fin. Et alors, dans mon récit personnel, j'aime à croire que le fait de ne pas avoir une histoire de A jusqu'à Z a déclenché quelque chose en moi, l'envie d'avoir une histoire maîtrisée de A jusqu'à Z. Et dès la première année primaire, je ne sortais pas en récréation pour écrire des bandes dessinées.
Et avant d'être écrivain, vous faisiez quoi ?
Avant d'être écrivain ? Mais j'ai toujours été écrivain, depuis toujours. Mais mon premier livre publié, c'était, oh là là, je dois avoir aux environs 35 ans. Et auparavant, après la sortie de l'université, c'est déjà de l'écriture bien sûr, mais j'ai fait des scénarios de bandes dessinées pour Bayard ou pour Le Lombard, etc. pendant au moins 4 ans, parce que j'ai une double attraction à la fois pour l'écriture, mais aussi pour la narration, donc le fait de construire et de raconter des histoires. Ce qui pour moi, donc on parle de deux choses différentes.
Quand vous écrivez, qu'est-ce que ça vous apporte ?
Là aussi, j'ai un jour rédigé un texte à la demande d'une revue en disant que l'écriture, c'était une passion, mais une passion, si on pense à l'étymologie, dans passion, il y a aussi la souffrance. Ça veut dire que c'est quelque chose, comment dire, qui apporte beaucoup de joie, mais qui peut vous faire souffrir, parce que finalement, le milieu littéraire n'est pas si aisé que ça. Hein. Ce n'est pas nécessairement une activité où on a une reconnaissance immédiate. un argent qui arriverait ou une gloire qui arriverait en proportion de la qualité ou des efforts fournis. Donc il faut être fort, fort, fort blindé. Moi, j'avoue que je suis assez constructif et positif, donc je suis blindé depuis toujours, parce que depuis toujours, je veux écrire. Et donc, j'ai toujours lu des articles en sachant que tant de peintres, de musiciens, d'écrivains avaient été connus après leur mort, etc. Donc, bon, je fais le mieux que je peux, et la suite, finalement, ne me pose pas de problème majeur.
Si je comprends bien, écrire, c'est un peu comme une drogue, c'est addictif pour vous ?
Alors, c'est tellement addictif qu'effectivement, j'écris presque du matin jusqu'au soir, puisque maintenant, j'écris des articles pour différents supports, dans des revues, sur des plateformes numériques. Je ratisse très large, hein, puisque au départ je me consacrais beaucoup à l'actualité éditoriale belge francophone, parce que je trouvais que on parlait pas assez de ce qui se fait en Belgique francophone, et donc je voulais apporter, avant de râler moi-même comme auteur, je voulais apporter mon obole et servir les collègues, les éditeurs qui font bien leur boulot. Mais dans un deuxième temps, j'ai fini par vouloir comprendre d'où venait finalement notre littérature belge francophone, et je me suis tourné vers le patrimoine. J'ai fini par faire un feuilleton sur le patrimoine littéraire en compagnie d'un excellent ami, Jean-Pierre Legrand. Et puis finalement, Jean-Pierre adore la musique classique. On a fini par faire une espèce de discothèque, une espèce de feuilleton pour tendre vers une discothèque idéale. Puis j'ai lancé un feuilleton sur l'histoire du cinéma. Donc vous voyez, chaque fois que je vois ou que j'entends quelque chose, j'ai presque toujours envie de le transformer en texte.
Quand vous écrivez, est-ce que vous avez une sorte de rituel d'écriture ?
Bon, alors là, c'est presque un tabou, puisque ça va casser complètement l'image de l'intellectuel, de l'artiste sensible, etc. Mais je vous offre ce scoop, cher Eric. Tous les jours que Dieu fait, je commence ma journée à 7h le matin, en ouvrant, vous allez être étonné, en ouvrant des journaux catalans de sport, pour lire les dernières nouvelles, les derniers potins sur le football club de Barcelone. C'est mon seul talon d'Achille par rapport à mes activités artistiques.
Alors, est-ce que vous avez un peu l'impression d'être privé de liberté ? Est-ce que vous pensez qu'un écrivain est enfermé dans sa fonction d'écrivain ?
Moi, je me suis offert, j'ai beaucoup réfléchi sur la question, et je me suis offert le luxe, très tôt, d'avoir mes journées pratiquement complètes pour l'écriture, puisque mon travail normatif était repoussé en soirée. Indirectement, à cause de ce travail normatif qui est en soirée pour que j'ai mes journées libres pour la création, je souffre entre guillemets d'une chose, mais toute médaille à son revers, c'est qu'il m'est presque impossible de sortir. Ça veut dire que quand je reçois des invitations de soirées littéraires, de collègues, etc., je ne peux pas. Je devrais attendre la pension pour pouvoir y aller.
Comment se passe l'élaboration d'un roman ? On va parler du dernier. Est-ce que vous avez un plan précis avec l'histoire, les personnages, etc. ? Ou bien est-ce que vous vous installez devant votre ordi ou devant une feuille de papier et que vous attendez que l'histoire arrive ?
Alors c'est une très bonne question, parce que là, ça me renvoie à une problématique qui m'a toujours obsédé, qui était la différence entre les auteurs anglo-saxons, en étant un peu dans le cliché, mais la différence entre les auteurs anglo-saxons et les auteurs francophones. Moi, je crois que l'inspiration, ça se travaille, et qu'il faut travailler de manière organisée. Et un peu comme de grands auteurs anglo-saxons, je ne conçois pas l'idée de commencer une histoire en étant seul devant ma feuille ou mon clavier. Je travaille en général, quand c'est un roman, souvent je mène 6 mois, 9 mois, 1 an à écrire l'histoire, donc à travailler sur la documentation, à faire des repérages, à me déplacer, etc., à voyager et à prendre des notes, et puis à construire un synopsis et finalement à tendre vers une histoire à plat. Mon auteur préféré, James Ellroy, l'américain, raconter que lui, je ne vais pas jusque-là, il écrivait une histoire à plat de centaines de pages. Alors moi, je ne vais pas jusque-là parce que j'essaie quand même d'avoir un juste mixte avec l'espèce d'inspiration que prisent davantage les francophones. Et je crois qu'il faut des balises, mais que c'est bien aussi qu'on ne soit pas prisonnier de ce qu'on a construit et qu'on puisse quand même encore se laisser entraîner par l'inspiration du moment. Donc c'est un peu un compromis.
Quand vous écrivez un roman, vous êtes plutôt papier ou ordi ?
Alors, je fais mes petits schémas sur des papiers, avec mon petit bic, et ça me suit partout. Mais écrire, c'est systématiquement clavier.
Donc vous avez un carnet sur vous et vous notez des choses quand vous croisez des gens dans le tram, dans un café, dans une gare, et ces choses qui peuvent se retrouver dans un roman éventuellement ?
Pas un carnet, en général c'est des petites feuilles séparées que je garde dans ma mallette, pas tant dans les déplacements en bus, en tram, mais notamment dans mon travail administratif en soirée, il m'arrive d'avoir des idées, mais surtout j'ai ces moments comme ça où je suis seul ailleurs, au calme, et je prends des notes, ou alors je fais des espèces de synthèses pour avoir vraiment les idées principales, notamment le cahier de charges. En fait, pour chacun de mes travaux, petit ou grand texte, je parle de la quantité de pages, j'essaie d'avoir un cahier de charges, de mettre des balises, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux dans cet ouvrage, finalement, envoyer vers le lecteur. Et donc d'avoir un peu des références pour aussi me renouveler. Parce que je suis obsédé par un grand challenge qui me vient de l'enfance quand je lisais et que je voyais ce que faisaient d'autres auteurs. C'est l'idée, quelque part, par exemple, de satisfaire un lectorat qui, si c'est attaché à un héros, voudrait le retrouver. Mais en même temps, un truc que je ne supporte pas, c'est la collection avec un personnage récurrent qui ne vieillit pas, etc. Comment avoir ce compromis de continuer quelque chose et en même temps de se renouveler. Et donc, à chaque fois, j'essaie de me donner des références, des balises et un cahier de charges très précis au niveau de l'écriture, par exemple. Est-ce que ce sera le présent, le futur ? Le futur, non. Le présent, le passé ? Est-ce que... Enfin bref, je balise pour ne pas m'écarter. Et tout ce qui s'écartera sera supprimé automatiquement.
L'action de votre dernier roman, Les Sœurs Noires, se déroule à Tournai. Pourquoi avoir choisi justement Tournai ?
Tournai, c'est ma ville d'origine. J'ai toujours vécu jusqu'à 18-20 ans dans le Tournaisis, dans des petits villages. Et puis vers 20 ans, mes parents se sont installés à Tournai, mais j'étais déjà en couple. Et donc là, je n'ai plus passé beaucoup de temps. C'est là que vivaient mes deux meilleurs amis. C'est là que j'ai fait mes études secondaires. Et avec le recul, comme je retournais voir mes amis, quand on s'éloigne d'un lieu, on se rend beaucoup plus compte des avantages. Donc en retournant, entre guillemets, comme touriste, je me suis rendu compte à quel point Tournai était une si belle ville. Et comme j'ai des goûts très branchés histoire, il y a un patrimoine merveilleux à Tournai. Et donc, quelque part, ça participe aussi de cette espèce d'élan que j'ai depuis des années d'essayer de me battre pour le microcosme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, donner de la place à des décors de chez nous. Et donc, tant qu'à faire, je pouvais commencer à mettre en évidence mon terroir d'origine.
En deux mots, que raconte justement votre dernier roman, Les Sœurs Noires ?
Alors en deux mots, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de thématiques dans le bouquin. À l'avant-plan, on a un polar, enfin un policier disons. On a un mystère, un thriller, une jeune femme, une jeune fille de 17 ans, étudiante à l'Athénée Barra où j'ai fait moi-même mes études, disparaît. Et la directrice de l'établissement, qui était très attachée à son élève, fait appel à un écrivain de passage à Tournai pour un salon du livre qui est spécialisé dans l'histoire policière, un amour de jeunesse. Et cet auteur va faire l'effort d'essayer de se pencher sur la disparition parce que la police a enterré le dossier très vite en disant que c'était une jeune fille d'origine maghrébine qui était impliquée dans une histoire de radicalisation, etc. Ce qui paraît impossible pour la directrice d'école. Et donc, notre héros, sans œillères, va essayer de se lancer dans une exploration de tout ce qui a entouré cette jeune fille, milieu scolaire, milieu familial, différentes pistes vont s'ouvrir. Et alors ça, c'est le premier degré, le roman policier. Mais à l'arrière-plan, il y a la capacité ou la difficulté de réalisation d'une jeune femme, notamment d'origine maghrébine, comment se réaliser dans la société belge, tous les dangers auxquels peuvent se confronter des femmes. Qu'est-ce que je pourrais encore dire ? Il y a des aspects sociologiques, il y a des aspects psychologiques. J'ai fait aussi un petit clin d'œil à ma vie d'antan en faisant apparaître des personnages réels dans le récit.
Et c'est des personnages qui vont se reconnaître ou bien vous avez changé les noms et seuls, même eux, ne vont peut-être pas se reconnaître en fait ?
Alors ils vont se reconnaître parce que je les ai prévenus. Mais l'astuce dans le bouquin, c'était de... C'est un bouquin où tous les personnages sont appelés, même le héros, par leur prénom. Et on n'aura jamais les noms de famille, à part l'un ou l'autre personnage secondaire, mais les personnages principaux sont appelés par leur prénom. Ce qui fait qu'on peut, au premier degré, reconnaître telle ou telle personne, mais en même temps, on protège son identité.
Alors, quelle était l'inspiration qui a fait que vous avez écrit ce roman ? Est-ce qu'il y a un événement spécifique qui vous est voilà, qu'un jour vous avez vécu et qui a fait que vous vous êtes dit ben, « je vais écrire un roman ».
Très bonne question, parce que là aussi, il y a une anecdote à raconter. En fait, comme je fais de la médiation, en travaillant pour le carnet Les Instants, on m'a demandé en tous les cas de rubriquer un exemplaire ou l'autre de la collection Noir Corbeau et le bouquin théorique qui accompagnait le lancement de la collection, un bouquin qui racontait un peu l'histoire de l'édition de romans policiers en Belgique qui était écrit par Christian Liebens. Or, Christian Liebens, c'est quelqu'un qui vient de la région de Liège, pour lequel j'avais beaucoup de respect. Bon, je vous évite le pourquoi je l'avais connu de loin en loin. Et j'ai eu envie de participer à cette collection pour le retrouver quelque part et puis par participer. Je trouvais que c'était une bonne idée que Weyrich, les éditions Weyrich, osent lancer une collection de policiers. Mais le paradoxe et l'anecdote, c'est qu'en fait, quand j'ai fait mon policier, ils ont trouvé que c'était trop bien écrit pour un policier et ils m'ont orienté dans la collection littéraire. Et finalement, les choses étaient bien faites parce que Christian Liebens n'était pas directeur littéraire de la collection policière, mais l'est de la collection littéraire. Et je me suis retrouvé finalement là où j'aurais dû être, finalement avec Christian Liebens.
Vous avez mentionné votre éditeur Weyrich. Pourquoi spécialement cette maison d'édition ? C'est une maison que vous affectionnez ou bien c'est arrivé par hasard ? C'était eux qui ont accepté de publier votre livre ?
Alors, j'étais infidèle, si on peut dire. C'est-à-dire que, non, en fait, je suis quelqu'un de très fidèle. On pourrait faire défiler les gens là, et les interroger, mais je suis très, très fidèle sur des décennies, que ce soit dans la vie ou dans l'édition. Et mes deux éditeurs les plus habituels, c'est depuis très longtemps, c'était Maelström et Christian Lutz au CRI et chez Samsa. Mais je trouve qu'on ne doit pas être... comment dire, rester toujours dans le même sillon. On doit s'exposer, se mettre en question et faire des choses aussi différentes. Chaque maison d'édition a sa particularité. Et donc, je voulais oser d'autres choses. Et comme je faisais de la médiation, j'ai eu l'occasion de me rendre compte du bon travail que faisaient certains éditeurs. D'où l'envie de, par exemple, envoyer un texte à Éric Lamirois, qui avait lancé des collections de petits textes 5000 mots, c'est un challenge. Donc j'ai participé à ces expériences, on peut dire, avec beaucoup de plaisir chez Éric Lamirois, et idem avec Weyrich, avec cette collection policière. C'est pas lui qui m'a demandé, mais je lui ai envoyé ce texte, j'ai envoyé un seul éditeur, il m'a pris, et ben voilà.
Dans votre dernier roman, Les Sœurs Noires, est-ce qu'il y a un message, ou bien c'est simplement un roman qu'on va lire pour l'histoire ?
Est-ce qu'il y a un message ? Ben, il y a un message sans doute, qui n'est peut-être pas au premier plan, mais au deuxième plan, qui est un message d'ouverture, d'avancer dans la vie sans œillères, puisque au fond, le principe de l'histoire, c'est que mon héros et la directrice, son amie d'enfance, qui va lui demander d'enquêter, au fond, ils vont partir en contrepoint de l'enquête officielle, qui est dans le cliché et l'amalgame. Cette fille avait certaines caractéristiques, donc nécessairement, elle est ceci, elle est cela. Et eux vont refuser ça et vont accepter de partir à zéro. Et au fond, l'idée, c'est que dans la vie, on ne doit pas s'arrêter à des clichés. Il faut des règles, mais toute règle a ses exceptions. Il faut toujours rester ouvert. En tant que médiateur, par exemple, ça m'arrive de proposer le texte, le premier livre d'un auteur ou d'un micro-éditeur, parce que la qualité peut se nicher n'importe où.
L'action de votre roman se déroule à Tournai. Moi, je voudrais vous demander, en fait, est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que le fait, justement, que c'est à Tournai, ceux qui ne connaissent pas Tournai, qui ne sont peut-être pas belges, vont se trouver un petit peu perdus dans une littérature trop belgo-belge ? Ou alors, vraiment, vous l'avez fait de façon à ce que l'on soit suisse, canadien ou français, on puisse le lire et peu importe que ça se passe à Tournai, à Bruxelles ou à Liège.
En tous les cas, j'ai déjà eu plusieurs échos. Le bouquin vient de sortir, mais j'ai déjà eu des échos de gens de la région de Bruxelles. Je pense à un chroniqueur littéraire du Brabant ou Wallon qui m'a dit qu'il allait passer quelques jours comme touriste à Tournai le prochain été. Et il y a quelques jours, j'ai un chroniqueur français de Besançon qui m'a écrit pour me dire qu'il allait sans doute venir à Tournai. Non, j'ai essayé de travailler de telle manière que ça soit un Tournai ouvert et que ça ne soit quand même pas sous la forme d'une private joke, qu'on tente la main vers ce qui est au fond générique et vraiment un patrimoine, comme il y aurait le patrimoine UNESCO, que ce soit la cathédrale de Tournai, etc. je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à tourner qui méritent qu'un touriste qui serait japonais, allemand, français ou marocain puisse venir s'arrêter quelques jours. Et donc quelques-uns ont déjà eu cette réaction de proposer de venir passer quelques jours. Donc il est tout à fait... D'ailleurs, on m'a proposé, au fond, j'y repense en vous parlant. Il y a quelqu'un en Belgique qui s'appelle Guy Delas qui fait des rencontres, des balades littéraires. Et il va faire un spécial tournée à la suite de la lecture. Et donc, on aura sans doute des gens d'un peu partout qui viendront et on se déplacera d'un lieu gastronomique ou d'un lieu patrimonial à l'autre.
Donc, dans votre dernier roman qui s'appelle « Les Sœurs Noires », est-ce qu'on parle aussi de la société belge du XXIe siècle ?
Oui, à travers justement même différents aspects de société, puisqu'on voit une société très aisée qui est quelque part... une menace dans le roman qu'on va découvrir progressivement, des gens qui ont beaucoup de pouvoir, donc une espèce d'oligarchie financière. Mais on a aussi le milieu de l'immigration où j'ai voulu montrer qu'il n'y a pas d'amalgame à faire et que derrière chaque étiquette, on doit déconstruire toute étiquette et qu'il y a des réalités extraordinairement contrastées. Et donc j'ai présenté une famille dans le cas de mon héroïne qui s'appelle Siam. Et dans cette famille, pratiquement chaque membre de la famille raconte une manière différente de vivre une adéquation entre ses racines et la société belge, par exemple.
Quand vous publiez un roman, quel sentiment est-ce que vous ressentez, en fait ? De la crainte, de la joie, du stress ?
Alors, de la crainte, certainement pas. Du stress, par rapport à la sortie, pas du tout. Le stress, il existe uniquement quand je me dis que j'ai des choses à faire pour que les choses soient bien faites. Ça veut dire que si l'éditeur doit envoyer des SP à différents médiateurs, je vais essayer de soigner l'accompagnement en lui disant « n'oubliez pas X, Y et Z ». Là, je me sens responsable que ça soit relativement ouvert. Qu'on aille. Parfois, un éditeur ne pense pas à certains médias qui, moi, me touchent ou m'intéressent. Et donc, quand j'ai une responsabilité, si je dois préparer quelque chose, je suis stressé uniquement dans la préparation. Après, je n'ai plus de stress.
J'en ai interviewé qui était beaucoup plus stressé que vous. Alors, il faut préciser, SP, ça veut dire service de presse. Donc, ce sont des livres qu'on envoie à des gens comme moi, c'est-à-dire des journalistes. Les critiques, c'est important parce que ça peut aider à avancer. Quand vous souhaitez avoir des critiques qui sont constructives, vous allez les chercher où ? Ou auprès de qui ?
Alors, est-ce que je cherche à avoir des critiques constructives ? On peut toujours croire qu'un auteur préfère des critiques constructives, bien sûr. Mais moi, j'aime bien qu'on m'apprenne des choses sur mon travail. Donc, ça ne me dérange absolument pas qu'on voit des choses que je n'ai pas vues ou que je n'ai pas voulu mettre. Qu'à la limite, enfin ici la réception est très positive jusqu'à présent, mais qu'à la limite on me critique ou qu'on dise tiens, ceci je l'aurais traité différemment, etc. Moi ça m'intéresse, je n'aime pas l'acquiescement béat, hein, donc j'aime bien qui est controverse, qui est contrepoint pour progresser par rapport à la perception de ce qu'on a fait. Et du coup on a perdu le fil par rapport à une partie de votre question.
Quand vous avez envie les critiques, parce que c'est vrai que ça ne doit pas être évident. Disons qu'on voit parfois des critiques qui peuvent être très virulentes, entre autres sur Internet. Mais quand vous voulez des critiques constructives pour avancer, comme vous le dites, est-ce qu'il y a des personnes spécifiques chez qui vous allez les chercher ?
Je ne recherche pas spécifiquement à être encensé, etc. Donc j'ai des habitudes, il y a différents canaux auxquels je suis habitué. Alors on peut toujours se dire qu'en Belgique francophone, il y a le pire et le meilleur. Ça veut dire que si on n'est pas publié à Paris, quelle que soit la qualité de ce que vous avez fait, or il y a actuellement de très très bons ouvrages qui sortent, je pourrais vous faire toute une liste de formidables ouvrages qui seraient au top niveau de l'édition parisienne et qui sont sortis par des éditeurs belges. Mais pour le pire, c'est que les grands médias ne parlent très très peu, quasi pas, de ce qui se fait en Belgique. Mais alors, pour le meilleur, mais c'est aussi, ça pourrait être aussi un petit peu pour le pire, alors c'est pas vraiment le copinage, mais les gens se connaissent. Donc, le fait que les gens se démolissent à l'intérieur du microcosme belgo-belge, c'est rare. Alors moi, je me souviens qu'au début, je faisais de la médiation, j'ai surpris parce que j'osais faire des bémols. Alors, je ne suis pas le seul à le faire. Dans le carnet des instants, par exemple, on est habitué à être positif, constructif, mais on a le droit d'établir des bémols. Mais il y a toute une série de plateformes institutionnalisées où on doit encenser. Alors, on est face à deux contraires. D'un côté, on ne parlerait pas de votre livre. D'autre côté, on l'encenserait très fortement. Moi, j'espère appartenir à la voix médiane qui va parler tout en essayant d'être sincère et authentique. Et donc, j'essaie de contacter ou de faire envoyer des SP à des gens qui me paraissent... Regardez-vous, vous êtes en face de moi, je ne vous connaissais pas. Vous pouvez aimer ou ne pas aimer mon bouquin. Je ne vous ai posé aucune question par rapport à ça avant qu'on ne se rencontre.
Si je passe chez vous et que je regarde dans votre bibliothèque, je vais trouver quel genre de livre ? Des bandes dessinées, sûrement ?
Alors, c'est très éclectique. Vous allez trouver des bandes dessinées de toutes les époques, donc des très anciennes, des très modernes. Vous allez trouver même des bandes dessinées japonaises ou américaines. Donc là, vous serez peut-être étonné. Des romans graphiques, beaucoup de littérature, la littérature pointue aussi, avec des essais philosophiques ou beaucoup d'histoires, beaucoup de livres historiques, de la littérature de toutes les époques, aussi bien gréco-latine, j'ai envie de dire, que des romans anglo-saxons très modernes, des thrillers pointus, la littérature du début du XXe siècle. Je suis très, très éclectique. Petite anecdote pour renvoyer à cet éclectisme. Quand j'étais en fin de primaire, j'ai une passion en même temps pour Bob Moran, donc le garçon qui aime bien l'aventure. Et j'ai lu 50 ou 60 Bob Moran en quelques mois, en fin de primaire. Mais au même moment, je lisais avec passion Gérard de Nerval, qui a une prose poétique. Et les deux ont fusionné en tout début d'Humanité avec un roman que personne ne connaît, Les aventures extraordinaires d'Edgar Gordon Pym, écrit par Poe, qui est célèbre pour ses contes surtout, et traduit par Baudelaire. Et là, on avait une histoire passionnante, fantastique, mais avec une écriture Baudelaire, donc une écriture sublime.
Vos personnages de BD, c'est quoi ? Parce que j'entendais justement à la radio, il y a le dernier Blake et Mortimer qui est sorti. Vous lisez quoi ? Tintin ?
Alors, je déteste les exploitations de vieilles séries où on répète les recettes. Je trouve qu'un vrai, un vrai successeur est nécessairement moderne. Et donc, il part la personne qu'il veut prolonger, mais il s'en détache et il apporte des choses tout à fait récentes. Mais alors, je vais citer un exemple de BD. C'est ce qui a été fait sur Spirou par cet auteur français, Émile Bravo. Ce qu'il a fait est vraiment fantastique, extraordinaire, magnifique. Et j'ai un deuxième exemple, c'est aussi des auteurs français. Je pense à la scénariste Valérie, j'ai peur de mal prononcer son nom, je crois que c'est Mangin, et le dessinateur à l'instant précis, j'oublie son nom, mais ils ont fait, comment on appelle ça, c'est un spin-off, un séquel, donc une suite aux aventures d'Alix. Eh bien, autant la suite premium, pour employer des termes un peu snob et à la mode, la suite classique d'Alix, où on reprend le personnage, sa main diffère complètement. Je trouve que c'est vraiment des recettes. On répète, et l'auteur, s'il vivait toujours, ne ferait certainement plus ça. Autant la série de Valérie Mangin, elle arrive à rendre hommage à la série d'il y a 50 ans, mais en même temps, en étant parfaitement moderne. Bon, ça, pour moi, c'est des exemples, des modèles que j'applique aussi pour les romans. Ça veut dire que c'est bien de faire un clin d'œil dans un futur, enfin, un roman qui devrait paraître dans 2 ans. J'ai fait un clin d'œil à la littérature anglo-saxonne, style Conan Doyle. Mais ça ne sert à rien de refaire du Conan Doyle aujourd'hui. Donc, on peut faire un clin d'œil et des choses qui, par certains côtés, vont satisfaire le lecteur qui adore Sherlock Holmes. Mais en même temps, il faut quand même qu'on soit de plein pied dans un rapport avec l'être humain ou à la narration qui soit d'aujourd'hui.
Votre dernier roman, Les Sœurs Noires, ça vous a pris combien de temps pour l'écrire ? Donc depuis l'idée principale jusqu'au moment où vous avez écrit le dernier mot.
Alors si j'ai cette grande chance, et je vous renvoie à ce que je disais au début de l'émission, au début du podcast, c'est que j'ai la faculté de me mettre en immersion en travaillant de 7h à 15h, 7 jours par semaine. Donc je m'offre régulièrement pour chaque travail, du plus petit au plus grand, je m'offre des immersions. Et dans le cas d'un récit court comme chez Lamiroy, je ne fais que ça pendant 8 jours. Dans le cas du bouquin Les Sœurs Noires, je crois que j'étais en immersion totale pendant 5 mois, je crois. 5 mois pour tout écrire, mais après je laisse dormir toujours pendant plusieurs mois. je reprends, c'est systématique, hein, je laisse dormir au moins 6 mois, je reprends, je relis avec un regard de lecteur, et alors j'élague, j'élimine, ou j'essaie de pallier les lacunes éventuelles observées.
Vous parliez d'éliminer, est-ce que votre éditeur Weyrich aussi fait un peu de l'élagage ou pas? Et si oui, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec les morceaux peut-être qui vous demandent d'enlever ou de changer?
Alors, il y a très peu d'éditeurs belges qui m'ont demandé de retoucher quoi que ce soit à mes livres. Et je devrais remonter à mes débuts à Paris pour avoir souvenir d'un éditeur qui me faisait retravailler. Mais dans le cas de Weyrich, c'est vrai que dans le cas de Weyrich, c'est pas Weyrich lui-même, c'est pas Olivier Weyrich lui-même, mais les deux responsables de la collection me disaient qu'il y avait un tout petit manque de clarté au tout début du récit. Et qu'après ça roulait, c'était très fluide. Et j'ai retravaillé ce petit aspect-là en fonction de ce qu'il m'avait dit, et de 2-3 bricoles. Il n'y avait pas grand-chose, mais j'étais très heureux parce que j'aime bien l'idée qu'un texte soit enrichi par quelques regards. Mais bon, c'était très chirurgical.
C'était ce qu'on peut appeler une critique constructive. Une dernière question, vos projets pour l'avenir? Vous avez un nouveau roman ou quoi en vue?
Alors, normalement, si tout se passe comme c'est prévu, début 2023 devrait commencer le lancement d'une saga en 4 tomes que j'ai écrit sur le côté parce que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup ces dernières années. Et quand vous me demandiez combien de temps il fallait pour les Sœurs Noires, eh bien, dans le cas de cette saga, entre guillemets, ce n'est pas une vraie saga, mais ça reprend un personnage récurrent qu'on retrouve dans les 4 livres. Ils sont tous écrits et il y a un des 4 livres qui fait 700 pages et qui m'a demandé près de 6 ans. Donc 6 ans en immersion, là j'en suis sorti exsangue.
Au début de l'interview, vous avez dit que vous n'aimez pas les séries avec le même personnage qui revient et pourtant là vous faites une saga.
Oui, mais je reste cohérent par rapport à moi-même. Ça veut dire que j'ai rempli le cahier de charge, à savoir satisfaire un public qui voudrait retrouver, comme moi j'avais envie étant jeune et lecteur, retrouver un personnage, une ambiance qu'on a aimé, mais en même temps que ça ne soit pas une suite comme un copier-coller. Et donc mon principe était le suivant, je crois que j'ai réussi. C'est prétentieux de dire ça, mais mes 4 récits, ils sont de gabarits complètement différents, entre 100 pages, 200 pages, 450 pages et 700 pages. C'est un scoop que je vous offre, hein, vous êtes le seul à le savoir. Et on change complètement d'univers. Donc on a un bouquin court qui se passe à Bruxelles en 1918, à la fin du premier conflit mondial. On a un bouquin qui se passe dans une Angleterre de mystère, d'ambiance Conan Doyle, le Londres un peu à la Sherlock Holmes. On a une grande aventure. Là, ça serait une réédition. Ça avait été publié déjà. Mais on a un bouquin qui se passe en Allemagne et en Pologne dans les années 20. Et puis, on a un énorme bouquin de 700 pages qui va essayer de s'attaquer à l'identité belge. Donc là, je suis audacieux, puisque les 700 pages vont essayer d'explorer toute l'histoire de la Belgique et tous nos lieux. Bon, c'est un scoop pour vous.
Ça y est, c'est fini.
Merci Philippe Rémy-Wilquin d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle le titre de votre roman, Les Sœurs Noires, paru aux éditions Weyrich. Alors, comme d'habitude, vous qui nous écoutez, vous avez une petite mission. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et bien sûr de le partager massivement sur vos réseaux sociaux. Un petit conseil aussi, abonnez-vous pour être informé avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Et il n'est pas interdit de laisser un petit commentaire. Merci de nous avoir écoutés. Que la force soit avec vous et avec tous les autres, et à très bientôt.